enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu concernant le fruit de l'esprit. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Galates 5, au verset 22. Ce message fait partie d'un ensemble. C'est le sixième aspect du fruit de l'esprit que nous verrons aujourd'hui. Et je vais lire le verset à nouveau. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour ou la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Donc chaque fois que j'ai dit « ou », ça veut dire que dans certaines anciennes versions, on a ces mots « amour » qui sont remplacés par « charité ». Et nous n'utilisons pas tellement ces mots. Mais ils ont quand même leur place et leur importance. En général, que je crois, j'en suis persuadé, que d'une version à l'autre de la Bible, il n'y a pas de contradiction. Vous croyez ça? Dieu s'est arrangé pour que nous puissions avoir confiance dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de versions falsifiées qu'ont produit certaines sectes, mais je parle de la plupart des versions classiques que nous avons dans les milieux chrétiens. Eh bien, vous n'avez pas de contradiction dans la parole de Dieu. Vous avez simplement des gens qui ont choisi de mettre l'accent peut-être plutôt sur un aspect de l'interprétation du verset ou sur un autre. Mais dans le sens général, vous pouvez avoir confiance dans la parole de Dieu. Et c'est important. Parce que si chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous êtes obligé de vous demander, est-ce que vraiment ce verset veut dire ceci et est-ce que ce mot ne veut pas dire autre chose? Alors là, ça devient difficile. Donc nous avons lu l'ensemble du fruit de l'esprit. Et j'ai dit que fruit de l'esprit, eh bien vous avez esprit avec un grand E quand c'est le Saint-Esprit et esprit avec un petit E quand c'est l'esprit humain. Et la plupart du temps, vous n'avez pas un mot différent qui vous dit cela, mais vous avez simplement l'interprétation générale du reste du texte qui vous permet de comprendre c'est là du Saint-Esprit dont il s'agit ou c'est de l'esprit humain. Et ici, eh bien, le fruit de l'esprit, c'est bien ce que le Saint-Esprit produit, mais en même temps, on peut dire c'est aussi le résultat de notre propre esprit, de nous. En fait, l'esprit, c'est nous. Nous sommes réellement des êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Et ces choses, ce fruit de l'esprit, c'est ce que les gens doivent voir maintenant. Alors, aujourd'hui, voyons ensemble la bienveillance. Bienveillance ou bénignité. On va commencer par une façon très classique. On va d'abord définir un peu ce que nous voulons dire par bienveillance. Donc bienveillance, on peut découper le mot bien et veillance et ça ne donne rien. Ça ne nous explique rien parce que ça n'a rien à voir avec le fait de veiller par exemple. Mais bienveillance vient du mot ancien bien veillant. Veillant qui veut dire vouloir. Donc bienveillant, vouloir du bien. Nous avons vu que la bonté c'était cette aptitude à vouloir faire du bien. Et la bienveillance, comme on a dit, le fruit de l'esprit, c'est pas 9 fruits de l'esprit. C'est un seul fruit, avec plusieurs aspects. Mais ils sont très liés, très fortement liés les uns avec les autres. Vous pouvez pas avoir, par exemple, quelqu'un qui est bon, mais qui ne manifeste jamais d'amour. Vous pouvez pas avoir quelqu'un qui est dans la paix, mais qui ne serait pas patient. Toutes ces choses travaillent ensemble. Et c'est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et de la possibilité que nous donnons à Dieu de nous changer. Ainsi donc, bienveillant est très proche du mot bonté. La bonté, c'était celui qui est bon, il pratique le bien. Et ici, celui qui est bienveillant, il veut du bien. Donc, la différence n'est pas très grande. On peut aussi parler bienveillance, on peut parler du bon vouloir ou encore du bon plaisir. Vous avez peut-être entendu cette expression un peu ancienne, quand on parle de certains rois qui disaient « tel est mon bon plaisir ». On parle de ces rois qui avaient un tel pouvoir sur les gens que n'importe quoi qui était leur désir ou leur plaisir, eh bien, devait être immédiatement exécuté. Donc, la bienveillance peut aussi traduire de cette façon, c'est la disposition favorable envers quelqu'un. Vous êtes favorablement disposé. Donc, la bienveillance, plus qu'une action, c'est avant tout d'abord une attitude. C'est une attitude de cœur. Est-ce que vous êtes bienveillant ou non? On peut aussi parler, mais ce mot est peut-être un peu négatif, on peut parler d'indulgence. Parce que quelqu'un qui est indulgent, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ferme les yeux et qui laisse passer des choses. Alors, il y a aussi l'ancien mot bénignité. Ce mot bénignité, dans la Bible, Louis II, où il est employé, c'est le seul endroit de la Bible où il est employé. Alors, si un mot de la Bible n'est employé qu'une seule fois, ça fait léger pour construire une doctrine dessus. Mais c'est simplement parce que la notion de bénignité est reprise dans d'autres choses. Et nous allons voir cela ensemble. La bénignité, alors je me suis demandé ce que c'est la bénignité, parce que c'est bien beau. Si le fruit de l'esprit, c'est la bénignité, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Eh bien, il nous est dit que c'est le caractère de ce qui est bénin. Et pour nous, quelque chose de bénin, on en a entendu parler, par exemple, des maladies bénignes. Ça veut dire une petite maladie sans gravité. Donc, ce qui est bénin, c'est ce qui est sans conséquences graves. Mais on a un petit peu du mal à associer ces choses. Autant pour moi, je vous livre un petit peu la façon dont j'ai avancé dans cette étude et la méditation. J'avais pas de problème d'envisager que Dieu était bienveillant, qu'il voulait le bien, qu'il recherchait à faire du bien. Mais de le voir comme quelqu'un qui était rempli de bénignité, indulgent, un peu... Ça fait un petit peu outrage, je dirais, à la justice de Dieu. On a l'impression que si Dieu commence à laisser fermer les yeux et laisser passer des choses, alors où est la justice de Dieu? Et que c'est pas possible. Il ne peut pas laisser quelque chose comme du péché impuni. Et donc, la notion de bénignité était plus difficile à voir. Mais on va y rentrer tout à l'heure. Donc, commençons tout d'abord par la déclaration suivante, c'est que le Seigneur est bienveillant. Il est bienveillant, et dans la mesure où la Bible nous décrit que le fruit de l'esprit, c'est entre autres la bienveillance, nous n'avons aucun problème à considérer que Dieu est bienveillant. Maintenant, c'est dans sa nature, voyons un petit peu plusieurs passages de l'Écriture qui nous parlent de la bienveillance de Dieu et la façon dont elle s'applique. Alors, un aspect de la bienveillance de Dieu, nous le trouvons dans Éphésiens 1:9. Éphésiens 1:9, vous n'avez pas à aller très loin, puisque vous êtes dans Galates 5:22. Eh bien, Éphésiens 1:9 nous dit la chose suivante. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le mystère, un mystère, c'est quelque chose qu'on ignore. Un mystère... Bien, beaucoup de gens ignorent la volonté de Dieu. Ils n'en savent rien du tout. Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, ici, l'apôtre nous dit clairement qu'en parlant à des chrétiens qui sont remplis de l'esprit, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et quelle est sa volonté, entre autres? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Un des aspects de la volonté de Dieu, c'est qu'il a un dessein bienveillant. Il veut faire du bien. Vous savez, peut-être pour vous, vous avez l'habitude de la parole de Dieu, c'est pas très étonnant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils trouvent que c'est quelqu'un qui est très mystérieux, ils ne comprennent pas non plus, au travers des événements qui se produisent, des catastrophes et de tous les malheurs qu'il y a sur le monde, qu'il puisse y avoir un Dieu qui est bon. Ils ont simplement oublié qu'il y a aussi un diable et qui est, lui, le destructeur. Mais quand ils auront réalisé qu'il y a autant un Dieu qui est bienveillant, il y a aussi un diable qui est destructeur, ils comprendront mieux qu'on peut avoir confiance en Dieu. Que Dieu est bon, 100% bon, et il a un dessein bienveillant. Dans 2 Thessaloniciens 1:11, nous lisons la chose suivante. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens et dit qu'il prie pour eux. Et il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa volonté et l'œuvre de votre foi. » Donc c'est un sujet de prière. C'est pas parce que Dieu a un dessein bienveillant que ce dessein va se réaliser automatiquement. Les desseins bienveillants de sa bonté. Vous avez vu que la bienveillance et la bonté sont liées ensemble. Mais encore faut-il prier pour que cela puisse se réaliser. Dans le psaume 106, verset 4, le psalmiste s'écriait « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. » Là, il invoque la bienveillance de Dieu. Est-ce que vous avez déjà invoqué la bienveillance de Dieu ? Vous savez que dans votre vie de prière, vous n'avez pas besoin d'être tellement rigide et tellement statique que vous priez toujours les mêmes choses. Et votre vie de prière est beaucoup en rapport avec l'état de votre âme. Regardez les psaumes. Les psaumes sont tellement variés. Un jour, vous avez « Oh Seigneur, aie pitié de moi qui suis pauvre, malheureux, etc. » Et l'autre jour, vous avez un psaume de victoire où il dit « Merci, c'est toi qui m'as délivré de mes ennemis. » C'est parce que les psaumes décrivent l'état de notre âme. Et nous ne sommes pas différents. La plupart du temps, notre vie connaît des hauts et des bas parce que nous sommes devant Dieu, mais en même temps, nous suivons nos états d'âme. Et donc, vous n'avez pas besoin de toujours commencer votre prière par le même aspect. Mais vous pouvez vous appuyer sur ce que vous trouvez dans la parole de Dieu et qui correspond à votre état. Un jour, vous aurez besoin d'invoquer la bienveillance de Dieu. Un autre jour, vous allez venir avec lui en invoquant sa fidélité. Et une autre fois, vous viendrez, comme toujours d'ailleurs, vous allez utiliser le nom de Jésus. Mais toutes ces choses, vous pouvez les utiliser. C'est permis. Et ainsi donc, il prie, « Souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. » Et dans Ésaïe 45, au verset 4, nous lisons quelque chose. « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. » Même avant que vous connaissiez Dieu, il était déjà en train de s'adresser à vous. Et de vous parler comment ? Avec bienveillance. Si vous entendez des messages qui vont dire... des messages de condamnation, où es-tu, misérable pécheur, repens-toi et reviens à Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire ces gens-là. Nous ne connaissons personne qui aille au ciel parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Ça ne marche pas, tout simplement. Parce que ce n'est pas répondre à l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, au ciel, nous n'en voudrions pas qu'ils ne soient pas des volontaires. C'est comme si vous avez une fête, on ne veut pas qu'il n'y ait pas des gens qui ne soient pas invités ou qui n'aiment pas être là. Ils gâchent la fête. Donc, ceux qui ne veulent pas de Dieu, eh bien, ils peuvent rester où ils sont. L'amour de Dieu est pour eux, sa bienveillance est pour eux, il leur veut du bien, mais c'est à eux de répondre à l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous avions vu l'autre fois que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la menace et la condamnation. Et avant qu'on le connaisse, eh bien, déjà, il nous a parlé avec bienveillance. Et à cause de cela... Eh bien, la bienveillance va agir aussi dans notre vie. Il nous parle avec bienveillance et vous rappelez que nous sommes le résultat des paroles de Dieu qui viennent en nous. Aujourd'hui, je suis le résultat de toutes les paroles de Dieu que j'ai laissées rentrer en moi depuis le début de ma vie. Donc, c'est simple. Pour quelqu'un qui refuse la grâce de Dieu et les paroles de Dieu, sa vie ressemblera à un enfer d'endurcissement et de méchanceté et de tout le reste. Parce qu'il aura refusé les paroles de vie. Mais nous qui les recevons, eh bien, notre vie sera le résultat de ça. Donc, le Seigneur étant bienveillant, quand il nous a recréé, quand il a recréé notre esprit, eh bien, sa bienveillance est venue en nous aussi. Nous avons la nature de Dieu, notre Père. Et maintenant, j'aimerais justement vous montrer, puisque nous avons dit que la bienveillance, c'était le bon vouloir, c'était vouloir du bien, j'aimerais vous parler de la bonne volonté. Premièrement, la bonne volonté est notre, la façon dont nous manifestons la bienveillance, eh bien, elle est conditionnée par une règle très simple que nous trouvons dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, au verset 11 et suivant. Vous savez que nous sommes appelés à agir, pas seulement avoir la foi en nous, la foi, foi du cœur, mais agir selon ce que nous entendons. Et 2 Corinthiens 8, au verset 11, nous dit la chose suivante. Achevez donc maintenant d'agir. Ça, c'est pour des gens qui ont déjà commencé à agir. Pour d'autres, on pourrait peut-être dire, commencez à vous mettre à l'œuvre. Vous dites que vous avez la foi, vous n'avez encore jamais rien fait qui montre votre foi. La foi sans les œuvres est morte. Mais ici, il n'est pas dit « commencez à agir », il est dit « achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Je traduis, vous aviez une bonne volonté, vous étiez empressé pour faire quelque chose, vous avez commencé de le faire, et bien maintenant, terminez-le. Terminez ce que vous avez commencé, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous avez commencé ? À agir selon la bonne volonté. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Tout le monde dit agréable ?
Agréable.
Vous avez déjà remarqué que quand il y a des gens qui ont de la bonne volonté, c'est agréable. Dans les familles, c'est agréable quand les enfants ont de la bonne volonté et qu'ils aident aux tâches ménagères, n'est-ce pas ? C'est agréable. Mais quand tout le monde ronchonne et que personne ne veut rien faire, c'est désagréable. Tout le monde dit désagréable. Et c'est désagréable pour tout le monde. Mais ici, il nous est dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Pour deux raisons. En raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Ou plutôt, seulement pour une raison sur les deux. En raison de ce qu'elle a à sa disposition, il est dit, et non de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez ? Ça ne sert à rien. Si je vous dis, tu sais, si j'avais 1 million, je te le donnerais. Voilà, ça ne sert à rien. Tu diras, bon, ben c'est gentil d'avoir eu cette idée. Mais il sait que je n'ai pas 1 million. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, si je dis, si j'avais 10 francs dans ma poche, alors je te les donnerais. Sauf que j'en ai 10. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est exactement ce que nous lisons dans ce verset. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et comme nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien, parce que Dieu nous a tellement bénis et tellement mis de choses en nous, vous savez que vous êtes tous riches, hein, vous avez des trésors de sagesse, de connaissance, de la parole. Dieu vous a tout donné. Ceux qui pleurnichent, les chrétiens je parle, auprès de Dieu, en disant « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça ». Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue. Ils sont toujours avec leur père et leur père dit « Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Dieu nous a donné son fils, il nous a donné le salut, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné les dons spirituels, il nous a donné les uns aux autres, il nous a donné les ministères, les dons, tout ce que dont nous avons besoin pour grandir spirituellement est à nous. Donc la bonne volonté est agréable par rapport à ce qu'elle a. Et la bienveillance est agréable aussi par rapport à ce qu'elle a, ce que vous avez en vous. La bienveillance, c'est bien de vouloir faire du bien aux autres, et bien cette disposition, vous l'avez. Et vous pouvez donc faire du bien et aider. Vous avez ce fruit de l'esprit qui est la bienveillance, vous l'avez. Alors qui aider ? Qui aider ? Parce que des fois, on dit « j'aimerais bien faire du bien, mais à qui ?» À qui faire du bien ? Tout à l'heure, nous allons, comme nous en avons l'habitude, nous allons terminer ce message par une déclaration. Et je vais vous dire déjà lequel nous allons prendre. Nous allons prendre le proverbe 22:9 qui nous dit, ne le cherchez pas maintenant, nous le regarderons tout à l'heure, il nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Il donne de son pain aux pauvres et il nous est dit, c'est à cause de cela que celui dont le regard est bienveillant sera béni. Qui aider ? Eh bien, il faut aider ceux qui en ont vraiment besoin. La réponse vous paraît peut-être simple, mais ceux qui en ont vraiment besoin. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin du salut. Tous ceux qui sont sur la terre et qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement ont besoin du salut. Mais il ne faut pas seulement aider ceux qui en ont vraiment besoin, mais aussi ceux qui veulent être aidés. Et combien d'entre nous avons perdu du temps à essayer de témoigner à une personne qui était endurcie, à qui on avait témoigné déjà 10 fois de l'évangile, par 10 personnes différentes et qui ne veut rien entendre de Dieu? Eh bien, nous n'avons pas alors à insister. Parce que Dieu lui-même n'insiste pas à ce moment-là, s'il refuse la grâce de Dieu. Mais pendant ce temps, nous avons peut-être à côté de nous quelqu'un qui désire entendre la bonne nouvelle. Mais parce que nous sommes tellement occupés avec la première personne, nous n'avons pas le temps de nous tourner vers l'autre. Et la Bible ne disait pas autre chose. Quand les apôtres se sont d'abord adressés aux Juifs, partout où ils allaient d'abord dans les synagogues. Et à un moment, il nous a dit, les Juifs ont fait beaucoup d'opposition. Et l'apôtre Paul leur dit, puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. Ils ont dit, cette catégorie de personnes ne veut rien entendre de Dieu. Ce n'est pas tous les Juifs qui ont refusé l'évangile. Mais il y avait là un groupe qui refusait. Il a dit, maintenant nous nous tournons vers les païens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il y a des gens dont on se désintéresse, mais simplement d'apprendre à discerner dans le temps, dans notre énergie que nous avons, dans nos moyens que nous avons, quelles sont les personnes vers qui Dieu veut nous diriger. Comment aider? Alors, deux critères, ceux qui ont vraiment besoin d'aide et ceux qui veulent être aidés. Et une chose qui va nous aider à aider ceux qui en ont besoin, c'est de voir dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils sont dans une situation de crise ou est-ce qu'ils sont dans une situation d'habitude? La Bible nous dit qu'il y a certaines personnes pour qui les bénédictions de Dieu, elles tombent comme dans un sac percé. Un sac percé ou un récipient où vous voudriez mettre de l'eau et dans lequel il y a des trous, vous savez que ça n'y restera pas longtemps. D'accord? Ça ne peut pas rester longtemps. On le met en haut et ça ressort déjà. Et ça coule et ça s'en va et c'est perdu. Donc il est important que nous puissions voir. J'ai lu ça dans un article d'une personne qui a partagé son témoignage et disait, voilà, nous sommes dans une situation difficile. Mon frère a perdu son emploi et ils ont dû quitter leur maison et on ne savait pas maintenant qu'est-ce qu'ils allaient devenir, ce qu'ils allaient devenir. Alors, voyant leur détresse, on a voulu les aider. Alors, ils les ont hébergés chez eux. Mais donc, une famille qui habitait dans leur logement, accueille une deuxième famille, avec des enfants en plus. Mais ce frère, au lieu de chercher du travail, de chercher à devenir assez rapidement autonome et de pouvoir de nouveau pourvoir aux besoins de sa famille, il a simplement profité de cette situation pour, comme on dit, se la couler douce. Et cette situation a créé une tension de ces gens qui étaient bienveillants à leur égard, mais qui au bout d'un moment ne pouvaient plus supporter cette situation. Leur logement n'était pas fait pour double effectif et ils voyaient que cette situation ne pouvait pas durer. Mais ils ont cherché à marcher par l'amour, donc ils ne voulaient pas le mettre dehors non plus. Alors ils ont cherché du secours auprès des serviteurs de Dieu qui leur a dit, premièrement, est-ce que cette personne est reconnaissante? Deuxièmement, est-ce que cette personne cherche du travail, cherche à changer de situation? Et troisièmement, et ça c'est une chose qui me semble très importante, est-ce que c'est une situation de crise ou est-ce que c'est une habitude? Et en réfléchissant, elle s'est dit, mais pendant toute notre vie, depuis mon enfance, je me rappelle que mon frère a été comme ça. Il a toujours, s'est toujours retrouvé dans des situations impossibles et a toujours profité des autres, sans vraiment jamais prendre ses responsabilités. Il a dit, alors, dans ce cas, vos sentiments sont tout à votre honneur. Vous voulez aider cette personne, mais vous n'allez pas l'aider de cette façon. Parce que si ce qu'il faut pour que cette personne soit vraiment aidée, c'est qu'il y a un profond changement à l'intérieur. Et pas qu'on compense tout le temps son manque de prise de responsabilité en aidant de cette façon. D'accord? Donc c'est quelque chose que, crois, pour moi c'est une révélation et je crois que c'est quelque chose qui peut nous aider vraiment souvent de savoir comment exercer un ministère à l'égard de quelqu'un. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui s'endurcit, qui se ferme, qui ne veut pas écouter, ça ne sert à rien. La Bible dit, si quelqu'un ne veut pas écouter l'instruction ou changer de vie, eh bien qu'il s'éloigne même de l'enseignement. Ça ne sert à rien. Donc il est important de voir à qui nous pouvons exercer un ministère. Et là, nous avons besoin vraiment que la grâce de Dieu se manifeste à l'égard des personnes pour qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils changent leur cœur et qu'ils soient capables de recevoir le vrai secours qui vient de Dieu. Et le vrai secours, il se situe au plus profond de nous-mêmes. C'est là que nous devons accueillir la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons ces déclarations en début de message. Voici ma Bible, pour nous rendre capables de recevoir l'aide, le secours du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est tellement important. Le vouloir et le faire. La bienveillance se communique par Dieu au travers de sa nature. C'est Dieu notre Père qui nous communique sa nature. Mais Philippiens 2 nous dit aussi quelque chose à ce sujet. On a déjà lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 8 que nous devons achever un travail. Achever. Et ici, il nous est dit, Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, donc c'est pour des gens qui obéissent, vous avez bien commencé. Comme vous l'avez toujours fait, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc il ne s'agit pas d'avoir crainte et tremblement, la peur du gendarme. La bienveillance, la bonne volonté, c'est celle qui se juge au niveau du cœur, pas seulement à l'extérieur. C'est pour cela, tout à l'heure, nous verrons aussi l'un ou l'autre verset qui parle de faire les choses de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, pas seulement par rapport à l'extérieur. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire en nous. Vouloir et le faire, la bienveillance, à cause de la nature que nous avons héritée de lui, mais bien plus, il nous aide à développer cette bienveillance. Dans le premier premier livre des Rois, chapitre 3, verset 6, Salomon invoque l'Éternel aussi en disant « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Ici, il nous est dit que la bienveillance de Dieu à l'égard de David était le résultat de quoi ? De la marche de David dans la présence de Dieu et dans la fidélité. Donc la bienveillance de Dieu, elle voudrait s'étendre au monde entier. Dieu aime tout le monde, chacun d'entre nous qui sommes assis ici. Mais certains sont au bénéfice de la bienveillance de Dieu et d'autres non. Vous avez remarqué déjà ? Et vous demandez des fois, pourquoi mon voisin est plus béni que moi ? Eh bien, il y a aussi des raisons à cela. Marcher dans la présence de Dieu et dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers Dieu. Quelqu'un a dit une fois, le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Le salut est gratuit pour nous, ça ne nous coûte rien, mais ça a coûté beaucoup à Jésus. Alors vous croyez que vous pouvez hériter de tous les bénéfices qui sont les conséquences du sacrifice de Jésus et vous mener une vie n'importe comment en se moquant de Dieu ? Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe. La Bible est très claire, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. En se trompant soi-même, certains croient tromper les autres, mais c'est juste eux qu'ils trompent. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc puisque nous avons vu qu'il n'y a pas de bon dans notre chapitre sur la bonté, il n'y avait de bon qu'un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais à cause de la bonté de Dieu, eh bien, nous sommes devenus bons. Il est dit, le bon arbre porte de bons fruits. Proverbe 14, 9 nous dit, les insensés se font un jeu du péché. Ils s'amusent dans le péché. Et ils sont insensés, ils n'ont pas de sens. Combien n'ont pas de sens à leur vie? Il y a des gens dehors, ils se moquent de Dieu. Ils se font un jeu du péché. Combien de stars de cinéma? On les voit jeunes, beaux. On les voit ayant toutes sortes d'aventures, maîtresses, changent tout le temps d'amants. Mais on ne parle pas d'eux quand ils sont sur leur lit de maladie, en train de mourir du sida. Là, les photographes ne sont pas présents pour montrer la gloire de ces personnes. Ils n'ont pas de sens dans leur vie. On ne montre pas la réalité de ces choses. Mais la Bible est claire. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Donc avec droiture de cœur, nous pouvons nous présenter devant Dieu, recevoir sa nature, recevoir le fruit de l'esprit. Et ce fruit a plusieurs, multiples aspects. Donc certaines choses, je l'ai déjà dit, sont très proches les unes des autres, comme la bonté, la bienveillance. Donc nous aussi, montrons de la bienveillance. Et montrons de la bienveillance, d'abord, éprouvons notre motivation dans les choses que nous faisons. Si on veut faire du bien pour en retirer un intérêt, ce n'est déjà plus le fruit de l'esprit qui agit. Vous rappelez que l'amour ne cherche point son intérêt. On l'a dit, ça, 1 Corinthiens 13. On a confessé ensemble, 1 Corinthiens 13, tout ce que l'amour fait. Notre motivation, par exemple pour la prédication. Philippiens 1, 15 dit la chose suivante. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y en avait qui avaient des dispositions bienveillantes. Et moi, je souhaite, devant Dieu, d'avoir toujours des dispositions bienveillantes à votre égard. Alors, je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu, des fois, vous savez, on est humain, on peut aussi avoir des choses qui se passent dans notre âme, de l'amertume, des déceptions, des choses, qui règlent leur compte depuis le micro, hein, depuis le pupitre, si vous voulez. Eh bien, ce n'est pas ma façon d'agir. Et par le passé, il est arrivé que des gens m'ont accusé en disant « Tu nous as dit ça, mais tu savais bien que ça toucherait. » J'ai dit « J'en suis heureux que la parole de Dieu vous touche. » Parce qu'elle est destinée à ça. Et il se peut que l'un ou l'autre puisse une fois se fâcher, mais pas à cause de moi. Parce que la parole de Dieu met exactement le doigt là où ça fait mal. Et là où il faut qu'il y ait un changement. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ma prédication veut toujours se reposer sur ce que nous avons vu à l'instant. Sur des dispositions bienveillantes. C'est-à-dire vouloir le bien et communiquer quelque chose de bon pour les auditeurs. La prédication doit toujours être quelque chose qui élève. Même si des fois il y a des choses qui ne plaisent pas, mais toujours, à nouveau, on montre un chemin de victoire, un chemin de s'en sortir, un chemin d'encouragement. Toujours, toujours. Éphésiens 6, 6 nous dit que pour les serviteurs, et les maîtres, voilà les relations qu'ils doivent avoir entre eux. On doit agir non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et Colossiens 3, 23 va dans le même sens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Si vous êtes comme ça, peut-être quelqu'un qui a été dans le passé trahi, abusé, a du mal à être bienveillant. Parce qu'il se dit, mais si je fais du bien à cette personne, est-ce que je vais avoir un retour? Est-ce qu'on va me faire du bien aussi ou est-ce qu'on va me trahir? L'amour ne pose pas cette question. L'amour à l'égal de Dieu est bienveillant. On cherche à faire du bien. Mais comme je dis, il se peut, parce que nous sommes humains, que ces questions soient présentes. Eh bien, voilà la règle dans laquelle vous devez marcher. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Parce que si vous faites quelque chose pour le Seigneur, il va veiller à ce que vous ne soyez jamais déçus par lui. D'accord? Même si quelqu'un vous trahit, lui va vous récompenser. Et on arrive au point suivant, la récompense de la bienveillance. La bienveillance, je dis, est la porte ouverte aux bénédictions de Dieu, si vous êtes bienveillant. La loi des semences et des moissons, elle est omniprésente. Dieu a déclaré, et vous savez que la parole de Dieu ne peut pas être annulée, il a dit que tant que durerait cette terre, tant qu'il y aurait le jour, la nuit et tout cela, eh bien, la loi des semences et des moissons va aussi être sur terre. Et nous sommes tous obligés d'être sous cette loi, que ça vous plaise ou non. Vous pouvez soit en retirer les bénéfices ou en subir les conséquences. mais vous êtes sous cette loi. Il n'y a pas à en discuter. Il n'y a pas à dire je n'aime pas cette loi des semences et des récoltes. Vous n'avez pas à aimer. C'est un fait. C'est comme ça. Vous pouvez dire je n'aime pas la loi de la gravité. Parce que si je grimpe une échelle, je risque de tomber. Mais que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est pas la question. C'est comme ça. Nous vivons dans un monde où il y a une loi de gravité. Vous l'avez tous remarqué déjà. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois dans sa vie. Eh bien, nous sommes aussi dans un monde où il y a la loi des semences et des récoltes. Et ça marche pour la bienveillance. Ce n'est pas étonnant. Genèse 21-23 nous dit la chose suivante. « Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Un autre exemple. Juges 9-16. « Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélech ? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison ? L'avez-vous traité selon les services qu'il vous a rendus ?» À nouveau, il y a une réciproque. Un autre passage. 2 Samuel 10-2. David dit « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. 1 Roi 2-7. « Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard. » Je vais encore vous en donner un autre. 2 Samuel 2-5. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître. » Il y a donc cette réciproque. Il y a la loi des semences et des récoltes. Donc, si vous voulez aussi récolter les bienfaits de Dieu, si vous voulez être récompensé, eh bien, montrez de la bienveillance. Proverbe 11-25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ça, les enfants l'ont souvent expérimenté quand il fait chaud et qu'on s'amuse à s'asperger. Eh bien, ils ont rapidement remarqué que quand ils s'amusent à asperger d'autres, ces autres ont envie de les arroser à leur tour. Eh bien, ce n'est rien d'autre que cette parole de l'Écriture adaptée dans un jeu d'enfant. Il y a un avertissement aussi. Dans 2 Chroniques 24-22, le roi Joas, ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Ici, il nous est dit que Jéhojada avait eu de la bienveillance à l'égard du jeune roi. Si vous vous rappelez, il y avait eu donc cette femme qui avait conspiré, qui avait tué une partie de la famille, mais on avait réussi à mettre à l'écart le petit garçon. Il était resté d'abord caché. Le sacrificateur s'en était occupé. Il avait montré de la bienveillance. Mais plus tard, ce même petit garçon ayant grandi, il est devenu méchant. Il a fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Et il a fait tuer le fils de Jéhojada, qui pourtant était un prophète et qui lui parlait de la part de Dieu. Et il nous a dit, il n'a pas eu égard. Il ne s'est pas souvenu de la bienveillance. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il ne s'est pas souvenu de la bienveillance, ça en reste là. Parce qu'il est dit que cette loi des semences et des récoltes demeure. Dieu a vu le mal qu'il a fait, que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Et Dieu fera justice. Les gens se plaignent des fois qu'il n'y a pas de justice en ce monde. Il y a une justice et elle sera exercée. Car notre Dieu est un Dieu juste. Amen. La bienveillance est aussi un des aspects de la promesse de la prospérité. Quand nous lisons Ésaïe 1,19, c'est un bon verset, Ésaïe 1,19, il n'y a que des bons versets dans la Bible, hein, mais certains nous promettent quelque chose et certains simplement nous informent de certaines choses. Et Ésaïe 1,19 nous dit « Si vous avez de la bonne volonté, vous rappelez, la bienveillance c'est le bon vouloir, c'est vouloir le bien. » Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous arrivez à vous soumettre à Dieu et à sa parole, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si ce que vous avez dans votre assiette n'est pas bon, c'est que vous avez encore à apprendre en ce qui concerne la docilité et la bonne volonté. Mais cette promesse de Dieu est sûre, et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et donc, n'ayons pas non plus ce calcul arithmétique au niveau du nombre de versets. Parce que des fois, il y a certains qui calculent en disant, il faut qu'il y ait tant et tant de fois une même pensée répétée dans la Bible, sinon elle n'a pas de crédit. Non, ici, il y a cette parole qui est donnée concernant la prospérité que Dieu veut donner à ses enfants. Il nous est dit, mais si vous résistez, verset 20, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et ce n'est pas pour nous menacer, c'est simplement pour nous avertir et pour nous dire, c'est une réalité, vous pouvez choisir. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Faites des bons choix. Le bon choix, eh bien, c'est de laisser le fruit de l'Esprit se développer en nous et d'être bienveillant à l'égard des autres. Et de remarquer, de se souvenir de la bienveillance de Dieu. Et Dieu nous fait grâce aussi pour que nous obtenions justement la bienveillance des autres. Parce que la bienveillance de Dieu est une chose, mais elle peut se manifester au niveau des personnes. Esdras 7, 28 dit que c'est Dieu qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Dieu avait fait trouver grâce aux yeux des rois et conseillers. Il est dit, je suis devenu l'objet de la bienveillance du roi. Vous êtes aussi l'objet de la bienveillance du roi des rois. Et parce que vous êtes l'objet de la bienveillance du roi des rois, il peut aussi vous faire devenir l'objet de la bienveillance d'un homme ou d'une femme. Esdras 9.9, nous sommes esclaves, et nous aussi nous étions esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Tout le monde dit Amen. On était esclaves du péché, mais il ne nous a pas abandonnés. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous construisons la maison spirituelle de notre Dieu. Et relever les ruines. Vous n'avez pas remarqué que l'église de Jésus-Christ est en ruine? Dans notre pays, elle est gravement en ruine. Plusieurs réveils ont eu lieu dans le passé. Des prédicateurs se sont levés, des églises se sont constituées dans le passé lointain. Et le diable est venu, il a apporté la persécution, la destruction. Les chrétiens ont fui, d'autres ont été envoyés aux galères. Et ça, je ne parle pas du temps des Romains, je parle du 16e, 17e. De tous ces temps de réformation, eh bien, nous avons à relever les ruines pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Nous savons qu'avec Dieu, nous n'avons pas de retraite. Nous sommes toujours actifs pour les services pour Dieu, mais nous pouvons avoir en lui un refuge et un repos dans la foi. Acte 27, 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Ce n'était pas l'habitude d'un capitaine romain de prendre un soin particulier de ses prisonniers. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'en avaient rien à faire de leurs prisonniers. De toute façon, la plupart étaient destinés à être exécutés ou à mourir dans les cachots ou que sais-je encore. Mais il nous est dit que Dieu a fait trouver grâce à Paul. Il a même, en tant que prisonnier, eu le droit d'aller chez ses amis et de recevoir ses soins. C'est pas mal comme prisonnier. Acte 28, 2, quand ils ont abordé sur une île, il nous est dit, les barbares, ils considéraient des barbares tout ce qui n'était pas monde grec ou romain, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la nuit tombait et qu'il faisait grand froid. Dieu a incliné les cœurs et il le fait encore aujourd'hui. Dieu nous fait trouver grâce et nous avons la bienveillance des gens à cause de notre Dieu. Un autre point de la bienveillance encore, je suis dans toute cette partie de la récompense de la bienveillance. Nous avons vu la loi des semences et des moissons, la promesse de la prospérité, que Dieu nous fait trouver grâce et nous sommes l'objet de la bienveillance. Et il y en a encore un autre qui nous est décrit dans Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. J'étais étonné de lire ça, Parce que d'habitude, je voyais toujours les rebelles dans le sens du peuple de Dieu. Et ici, il les a dit les rebelles, c'était en fait les gens qui habitaient Jéricho. Ils sont appelés les rebelles. Parce qu'en fait, dans leur façon de vivre, abominable, ils se rebellaient contre la loi de Dieu. Et Romains nous dit que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la loi de leur conscience inscrite en eux. Mais ils se sont même rebellés contre ça. Mais vous voyez que parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance, eh bien, Rahab, la prostituée, est rentrée dans cette famille de Dieu, a même fait partie de la lignée où de la descendance est sorti Jésus, le Sauveur. Eh bien, cette femme a été sauvée et n'a pas péri. Donc, la bienveillance nous fait entrer aussi dans la vie abondante. Non pas dans la mort, mais dans la vie abondante. Maintenant, j'aimerais qu'on voit encore un autre aspect. Nous avons beaucoup parlé de la bienveillance. J'aimerais quand même dire un mot sur la bénignité. Puisque une version de la Bible utilise ce point, je crois que nous avons aussi quelques bienfaits spirituels à en retirer. Donc, je vous rappelle simplement que la définition de la bénignité, c'est le caractère de ce qui est bénin. Avec ça, on n'est souvent pas beaucoup aidé. Alors, ce qui est bénin, c'est ce qui est sans conséquences graves. On pourrait dire une petite chose sans importance. Alors, je me suis posé la question, puisqu'il nous est dit que le fruit de l'esprit, c'est la bénignité, bienveillance, bénignité, est-il possible que Dieu soit bénin? C'est-à-dire qu'une partie de sa nature, ça soit cette attitude de considérer qu'il y a des petites choses sans importance. D'habitude, nous disons toujours, Dieu s'occupe des grands problèmes comme des petits problèmes. N'est-ce pas vrai? On dit que Dieu est celui de l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Mais ici, j'aimerais vous dire que je crois que oui, Dieu est bénin pour certaines choses. Et en particulier en ce qui concerne chacun d'entre vous et d'entre nous. Il y a des choses où Dieu considère que ce sont des petites choses sans importance. Je vais m'expliquer. Je crois que si Dieu a donné son fils Jésus, ce qu'il avait de meilleur dans le ciel, s'il a donné un sacrifice pour nous, s'il a versé son sang, s'il a connu toutes ses souffrances pour notre salut, c'était pas pour lui, c'est uniquement pour nous. Chacun peut dire pour moi. Alors ça veut dire que si dans ma vie chrétienne, je fais un faux pas, je trébuche, je fais une maladresse, je commets un péché, pour appeler les choses par leur nom. Dieu n'est pas là pour me tomber dessus tout de suite et vont me dire, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'est pas là pour, d'un côté, avoir déployé un si grand salut en Jésus, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, comme on dit des fois, pour qu'à la moindre chose que nous faisions, passions de travers, il nous tombe dessus, il nous condamne, il nous rejette. Et c'est pour ça que le fruit de l'esprit, bienveillance, bonté, ces choses fonctionnent ensemble, mais la patience de Dieu est aussi proche de cette bénignité. Ça fait qu'il voit où nous en sommes. Je ne fais pas de reproche à un petit enfant parce qu'il trébuche, parce qu'il est en train d'apprendre à marcher. Donc, je crois qu'il y a une différence entre des péchés d'ignorance, des péchés d'omission et des péchés volontaires. Je ne suis pas en train de classifier maintenant les péchés entre péchés capitaux, etc. Mais je suis simplement en train de dire, et je crois que ça va nous aider à chacun d'entre nous. Des fois, nous avons manqué le coche avec Dieu, nous avons raté des choses, nous avons su que nous aurions dû faire, nous n'avons pas fait, mais après, le diable prend avantage et nous met dans la condamnation. Et cela, Dieu ne le veut pas. Alors, considérons aussi sa bienveillance, ou si vous préférez maintenant ce mot « bénignité ». Que le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est la bénignité. C'est-à-dire qu'il sait ce que ça vaut. Il sait quelles sont les dispositions de notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il le passe comme ça, « Oh, ça fait rien, c'est pas grave. » Ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il sait mesurer l'importance des choses. Et je dis que tous les péchés n'ont pas le même poids dans notre vie. N'est-ce pas vrai? Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous lui résistez, que vous ne voulez pas le faire, la Bible dit que celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu et qui ne le fait pas sera frappé d'un certain nombre de coups, mais que celui qui la connaît et qui ne le fait pas sera frappé d'un grand nombre de coups. Quelle est la différence entre les coups? C'est qu'il y a des péchés d'ignorance qui font que le diable prend avantage de notre vie. Mais si vous commettez un péché et que c'est un péché volontaire parce que vous résistez à Dieu, que vous savez ce qu'il attend de vous et que vous ne le faites pas, vous vous exposez dans votre vie à avoir bien plus de coups du diable. N'est-ce pas vrai? Et là, Dieu est bon pour nous, il est patient, Et il y a aussi cet aspect de la bénignité. Et parce que Dieu sait aussi faire la différence entre des choses graves et des choses qui sont petites et de moindre importance, nous aussi faisons preuve de bénignité entre nous. J'ai marqué numéro 2, sachons ne pas faire d'une taupinière une montagne. Combien de relations sont empoisonnées parce qu'il n'y a pas le fruit de l'esprit qui est la bénignité ou la bienveillance. L'autre a fauté, il ne vous a pas dit bonjour ce matin, et alors? C'est si grave que ça? C'est tellement important? En réalité, cela développe souvent, cela révèle quelque chose en nous, c'est peut-être de l'orgueil. On ne fait pas assez attention à moi, c'est ça que ça veut dire. Mais la chose n'était pas tellement importante. Vous savez, en voyageant un petit peu, au contact avec d'autres peuples, cultures, on se rend compte que les gens sont très différents. J'ai eu des contacts avec certains Américains, j'ai remarqué qu'entre eux, ils ne se saluent jamais. Nous, on a beaucoup l'habitude, on dit bonjour, ça va, et tout le reste. Il y a des gens, ils s'aiment bien, mais ils se disent rien du tout. Ils passent l'un à côté de l'autre, ils se connaissent bien. Il faut simplement le savoir. Et donc, sachons ne pas faire des grandes histoires à cause de petites choses. Ça va beaucoup nous donner du repos, nous simplifier la vie et nous aider dans nos relations les uns avec les autres. Genèse 24, 49 dit « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » C'est-à-dire, si vous ne voulez pas être bienveillant avec moi, dites-le-moi tout de suite, comme ça je sais où on en est. Donc, c'est aussi une question de, quand on veut vivre ensemble, mettons-nous d'accord. Est-ce que nous voulons vivre ensemble avec la bienveillance? Moi, je dis oui, il le faut. Et ça va nous faire un bien énorme. 1 Roi 12, 7. C'était l'histoire de la succession de Salomon. Et Roboam devait faire quoi? Eh bien, il avait eu des conseils. On lui avait dit, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Le 2 Chroniques 17 le reprend aussi. Voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Il n'a rien voulu entendre. S'il avait pratiqué la bienveillance, eh bien, il aurait gardé son royaume. Mais à cause de son entêtement et de sa stupidité, le royaume d'Israël s'est éclaté. Et il a perdu une grande partie des gens. Et après, il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Et il y a eu des guerres entre Israël et Juda pendant des dizaines ou des siècles, je ne sais. Donc, c'est important, dans nos relations, de faire preuve de bienveillance. Et encore un aspect au niveau familial. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 4, « Père, n'irritez pas vos enfants ». Ça va dans le même sens. Ne faites pas toute une histoire avec des petites choses. N'irritez pas vos enfants. J'aimerais le lire en entier, Éphésiens 6, 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Beaucoup de chrétiens ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'ont pas obéi à ce verset. Ils ont voulu être tellement rigoureux, tellement stricts avec la doctrine, et souvent ce n'était même pas la doctrine biblique, c'était leurs propres idées. Et moi je me rappelle toujours au lycée, il y avait un père, je ne sais pas s'il était chrétien ou non, mais il était toujours tellement sûr que son fils était meilleur que les autres, et il ne fumait pas, il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça, mais dès que le père avait le dos tourné, c'était le pire et qui entraînait toute la bande. Et donc il y a des gens qui sont dans leurs illusions, avec leurs principes, qui ne viennent même pas de la parole de Dieu, c'est simplement leurs idées. Donc, je dis au père, laissez tomber. Père ou aux gens qui ont autorité. Laissez tomber certaines choses qui n'ont pas d'importance. Vous ne faites que irriter vos enfants et à la fin, ils ne feront pas la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, quelqu'un qui crie toute la journée, on n'entend plus quand il veut vraiment élever la voix parce qu'il crie tout le temps. C'est la même chose. Nous avons besoin quand nos choses importantes, nous voulons les communiquer, eh bien qu'on puisse encore les faire passer. Et donc, il y a l'autre aspect, je n'encourage pas à devenir des mollusques et devenir laxistes. Il y a aussi cet aspect, élevez-les en les corrigeant. Donc, d'autres ont fait l'excès inverse. Ils n'ont pas su les corriger. Et ça, nous le lisons dans 1 Roi 5, versets 5 et 6. Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi, Il se procura un char et des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Donc il s'est laissé emporter par l'orgueil parce que son père n'a pas su le corriger quand c'était nécessaire. Donc vous voyez les deux extrêmes, ceux qui irritent leurs enfants et ceux qui ne savent pas les corriger. Alors apprenons cet équilibre entre exiger des choses importantes et céder sur des choses bénignes. Ainsi nous serons, les gens seront bienveillants. D'accord ? C'est la parole de Dieu qui va nous aider. C'est Hébreux 4, 10, 11 qui nous dit « La parole de Dieu peut juger les sentiments et les pensées du cœur. » C'est elle qui va nous montrer ce qui est important. C'est elle qui va nous montrer quand il faut insister. Amen.